Les nuits de France Culture.
En consacrant une série d'émissions à Salvador Dali, peu après l'ouverture, en 1974, de son théâtre-musée de Figueras, Daniel Lecomte tentait de saisir l'illustre catalan dans sa globalité. Dans la globalité de l'œuvre dont rendait compte ce nouveau musée, mais aussi dans la diversité des perceptions et des analyses très contrastées que cette œuvre générait. Et comme nous allons l'entendre dans son quatrième volet, cette série n'éludait pas les questions posées par les propos et les attitudes de Dali sur le terrain politique des années 30 jusqu'aux derniers jours du franquisme. Dans cette quatrième émission, intervenaient le critique d'art Robert Lebel et le peintre Jacques Hérold pour évoquer l'époque surréaliste de l'œuvre de Dali et les circonstances de son éviction du groupe surréaliste. Une période qui était également évoquée à travers des lectures de textes de Brassailles et de Dali lui-même, que l'on entendra affirmer qu'il ne se mêlait pas de politique. Nuit magnétique, clé pour un théâtre-musée, quatrième des 10 épisodes, L'œil du temps, première diffusion le 9 novembre 1978 sur France Culture.
Salvador Dali, clé pour un théâtre-musée, par Daniel Lecomte.
Au cours de l'émission précédente, nous avons pu constater que la peinture actuelle de Salvador Dali suscitait des réactions différentes. Perspective d'avenir pour Liuba, peintre fantastique, elle n'est qu'un académisme décadent pour Robert Lebel, critique d'art intimement mêlé à la vie du groupe surréaliste. Dès que Dali fut entré dans le groupe, grâce à Juan Miró, il utilisa, semble-t-il, des recettes proches de l'art pompier pour éblouir ses nouveaux amis. Mais Jacques Hérold, qui lui aussi a connu Dali vers 1930, reconnaît aujourd'hui l'importance de sa participation et l'intérêt que lui portèrent alors les autres peintres surréalistes.
C'était étonnant. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on est revenu à une espèce de chose qui coule, qui prend une forme tout à fait gluante et, comment dire, odoriférante et tout cela, c'était curieux, n'est-ce pas, parce que là, jusque-là, on peignait pour se défaire de certaines normes, de certaines données figées que la peinture avait eu jusqu'à l'impressionnisme, n'est-ce pas, et même... Alors, tout d'un coup, on est revenu à une espèce de photo d'une irréalité, n'est-ce pas, et même plus qu'une photo. Alors, ça nous paraissait très étrange et très joliment fait, très bien amené et intelligemment, parce que c'était un homme plein d'astuces, plein de raffinements.
Robert Lebel.
Il faut reconnaître ce qui est, que Dali est un artiste très doué et qui avait à sa disposition ce qui finalement lui a beaucoup servi, cette technique académique, n'est-ce pas, qui lui permettait de faire n'importe quoi. En quoi consiste la technique académique telle qu'on l'apprenait autrefois dans les écoles des beaux-arts à Madrid, à Rome ou à Paris? Un peintre devait avoir une habileté manuelle qui lui permettait de copier Michel-Ange, de copier Vermeer ou de copier Delacroix, n'est-ce pas? Il devait être capable de faire n'importe quoi avec son pinceau ou son crayon. Et par conséquent, il a fait n'importe quoi, mais en s'aidant de sa technique académique.
Je ne crois pas que Dali ait fait une peinture totalement académique. Il est allé un peu plus loin que l'académisme. Il a eu tout de même une pensée, une manière de voir les choses, une clairvoyance, une invention, des personnages, même une manière de peindre très exceptionnelle. C'était même très brillant, comme ça, très... On était excité par ces... puis une avalanche de personnages. Il y avait une idée de la rupture, de la matière, des choses. Il y avait une transformation des êtres qui n'était pas aussi courante, qui n'avait rien de classique ni rien d'académique.
Non, il a voulu s'intégrer à la nouvelle peinture qui était la peinture surréaliste. Et alors là, en grappillant autour de lui, mais avec une habileté consommée, il est arrivé à se créer un style qui a fait que les surréalistes ont quand même été très intéressés par lui. Pendant un certain nombre d'années, pas beaucoup d'années, 4 ou 5 ans, pendant lesquels il a été vraiment, on peut dire, un très grand peintre surréaliste.
Extrait d'un texte des Souvenirs de Brassailles.
Le phénomène Dali, c'était l'astre dont Breton, depuis longtemps, avait souhaité la venue, calculé la trajectoire, attendu la fulgurante apparition. Quiricot était admiré, certes, mais il restait un répondant antérieur et extérieur au mouvement et ne témoignait pour lui que mépris et hostilité. Picasso résistait à l'ardent désir d'annexion des surréalistes. André Masson, Miro et même Max Ernst se distinguaient déjà plus par leur qualité picturale que par leur surréalisme d'obédience. Quant à Tanguy, si ces plages désolées de planètes mortes exerçaient un envoûtement fantomatique, elles n'éblouissaient pas par cette beauté convulsive dont rêvaient Éluard et Breton. Dali comblait, dépassait leur attente. C'était le peintre rêvé du rêve, de l'extase, de la féerie érotique. Un homme en délire, un névrosé chargé de complexes, l'explorateur aussi hardi que lucide de l'irrationnel. L'audience, l'autorité de Dali, son ascendant, était extraordinaire, et non seulement dans le milieu des gens du monde et des snobs, que Gala et Dali courtisaient jour et nuit, et qui achetaient ses tableaux 10 ou 12 000 francs, mais aussi à l'intérieur même du groupe surréaliste. Avant de qualifier sa peinture d'ultra-rétrograde et l'homme lui-même, Davida Dollar, Breton dira de lui « Durant 3 ou 4 années, Dali incarnera l'esprit surréaliste et le fera briller de tous ses feux, comme seul pouvait le faire quelqu'un qui n'avait en rien participé aux épisodes parfois ingrats de sa gestation. » Il apportait aux surréalistes, privés de leurs meilleurs éléments à la suite des épurations, l'image virulente d'un trompe-l'œil onirique qui semblait être dérobé au rêve par effraction et saisi instantanément avec la scrupuleuse objectivité de la photographie.
Pourtant, Robert Lebel continue à penser qu'il s'agit d'un démarquage habile d'œuvres d'avant-garde.
Il est arrivé, il a très rapidement, parce qu'il a à sa disposition cette technique pompier que les autres artistes ou n'avaient pas ou avaient abandonné. Il est évident qu'un homme comme Max Ernst avait eu aussi une technique pompier quand il avait étudié lui-même, mais seulement il s'en est débarrassé très rapidement parce qu'il trouvait ça incompatible avec le modernisme. N'est-ce pas, il y a là un problème, si vous voulez, d'une génération, pas seulement Dali, mais tous les gens de sa génération, qui étaient, en somme, de gentils jeunes gens de famille bourgeoise, n'est-ce pas, qui avaient eu une éducation absolument classique. Ils avaient tous fait des études à l'académie, on leur avait appris à bien dessiner, et ils avaient fait beaucoup, avaient fait des études philosophiques. Ils étaient un peu frottés de Freud, de Marx, de Hegel, de Kant. C'était des gens cultivés. Eh bien, ces gens-là, tout d'un coup, n'est-ce pas, par une espèce de réaction, de dégoût contre leur classe, c'est bien connu, n'est-ce pas, après la guerre de 14-18, ont voulu vomir tout ce qu'ils savaient. Un certain nombre de gens y sont arrivés à vraiment être modernes. D'autres n'y sont jamais arrivés, et même ne l'ont jamais cherché, comme Dali. Dali, ce qu'il a voulu, c'est faire de l'effet, arriver à surclasser Paris, n'est-ce pas? Il faut voir le côté provincial qu'il y a chez Dali. Il arrive, jeune espagnol, inconnu, Paris, c'est à ce moment-là quelque chose de fabuleux. Tout s'est passé, le dadaïsme, bien le surréalisme. Il y a Picasso, n'est-ce pas, espagnol, qui a conquis Paris et le monde entier. Et alors lui, il faut absolument qu'il arrive à égaler Picasso. Bon, alors il a armé de ce qu'il a, de ce qu'il sait, et il faut dire d'un tempérament très nerveux et très, très vif, il est arrivé à se faire très rapidement une place dans le surréalisme grâce à ses dons et en utilisant tout, n'est-ce pas ?
Non, non, non. Dali est un peintre qui a inventé sa peinture avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de mal même, parce qu'il avait, il a été influencé par, à ses débuts, enfin, et quelque peu avant, les tableaux les plus connus de lui, il était influencé par Tanguy et par Max Ernst. Et c'est petit à petit, assez rapidement, mais enfin petit à petit, qu'il s'est dégagé, il a trouvé ses moyens d'expression qui sont tout à fait daliesques, n'est-ce pas ? On ne peut absolument pas nier ce fait. Maintenant, on peut aimer, ne pas aimer, tout ça, ça c'est des problèmes qui regardent chacun, mais je crois que Dali, surtout dans sa période surréaliste, c'est-à-dire pendant 5-6 ans, n'est-ce pas, il a fait des œuvres tout à fait remarquables, tout à fait exceptionnelles.
Salvador Dali a raconté à sa façon dans le journal d'un génie ce qui se passait en 1933 en pleine montée du fascisme hitlérien.
Pendant ce temps, Hitler hitlérisait. Et un jour, je peignis une nourrice nazie tricotant, assise par mes gardes, dans une grande flaque d'eau. J'étais fasciné par le dos tendu et dodu d'Hitler, toujours si bien sanglé dans son uniforme. Chaque fois que je commençais à peindre, la bretelle de cuir qui, partant de sa ceinture, passait par son épaule opposée, la mollesse de cette chair hitlérienne comprimée sous la tunique militaire créait en moi un état d'extase gustatif, laiteux, nutritif et wagnérien qui faisait violemment battre mon cœur. Émotion très rare que je n'éprouvais même pas en faisant l'amour. La chair dodue d'Hitler que j'imaginais comme la plus divine chair d'une femme à la peau blanche me fascinait. Conscient malgré tout du caractère psychopathologique d'une telle suite de vertiges, je me répétais avec délice dans le creux de ma propre oreille. Cette fois-ci, oui, je crois que je frôle enfin la vraie folie. Et à Gala, apporte-moi de l'ambre à l'huile d'aspic et les pinceaux les plus fins du monde. Rien ne sera suffisamment précis et bon pour peindre à la manière ultra-rétrograde de Meissonier le délire super-nutritif, l'extase mystique et charnelle qui s'empare de moi lorsque j'entreprends de représenter sur la toile l'empreinte dans la chair d'Hitler de cette bretelle de cuir souple. J'avais beau me répéter que mon vertige hitlérien était apolitique, que l'œuvre qui naissait autour de l'image féminine du Führer était d'une équivoque scandaleuse, que ses représentations étaient teintées d'autant d'humour noir que celles de Guillaume Tell ou de Lénine, j'avais beau répéter tout cela à mes amis, rien n'y faisait. Le groupe surréaliste fut convoqué un soir pour juger de mon prétendu hitlérisme.
Il y a eu une séance chez Breton, où on était tous là, on était très nombreux, et parmi nous, il y avait ceux qui s'en sont écartés par la suite ou qui ont continué une autre, d'autres chemins plus académiques. Et parmi nous, tous les amis comme cela. Et
qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Max Ernst, il y avait...
Oui, il y avait Max Ernst, Tanguy, Breton, Éluard, Caillois, qui était un jeune écrivain. Et puis Monroe, et puis un tas d'autres peintres et poètes.
Le groupe s'était réuni à l'atelier d'André Breton, rue Fontaine, dans le courant de janvier 1934. Le ton des discussions, d'abord modéré, ne tarda pas à monter. De l'avis de tous les témoins, le spectacle fut étonnant.
Au moment où l'on allait m'expulser du groupe surréaliste, je souffrais d'un début d'angine. Comme toujours, tremblant lâchement dès que je me sens malade, je comparus avec un thermomètre dans la bouche. Je crois avoir pris ma température au moins 4 fois pendant mon procès.
Au lieu de répondre, il a fait le clown, il s'est déshabillé, il avait 36 gilets, il s'est mis aux genoux de Breton. Enfin, il a fait une séance de haute comédie. Mais dans ses déclarations, dans ses livres, n'est-ce pas, il le dit lui-même, il dit qu'il n'a jamais été sincèrement surréaliste.
Dali perdit aussi ses chaussettes et s'agenouilla enfin aux pieds de Breton pour lire un texte sur le caractère maldororien de son admiration pour Hitler. Quand il eut déclaré « Or, selon moi, Hitler a 4 couilles et 6 prépuces », Breton l'interrompit brutalement.
« Est-ce que vous allez continuer longtemps à nous emmerder avec votre Hitler ?»
Il avait pris des libertés sur tous les plans, enfin. Alors, on lui a posé Enfin, il est arrivé sans lacets à ses chaussures. Enfin, il avait créé comme ça une atmosphère très, très folle où il a demandé de parler pendant 1 heure et on l'a laissé parler comme ça, s'expliquer. Alors, il s'est expliqué à travers l'innocence du rêve, une réalité dans le rêve, n'est-ce pas? Et donc, d'une raison d'être.
Oui, c'est-à-dire
à travers les rêves de chacun, et que il s'est expliqué en disant que ces rêves étaient vivables. C'est-à-dire qu'il voulait les vivre. Je me rappelle qu'il a dit des choses assez violentes et assez grossières, même, parce que à un moment donné, il était très emporté, très excité par le fait qu'il allait être exclu, enfin éliminé de parmi nous. Alors, il s'est jeté à genoux devant Breton en lui disant « Si je rêve n'importe quoi vous concernant, j'ai le droit de le peindre. » Et je ne veux pas dire exactement ce qu'il a dit parce que c'était un peu gros. Et Breton lui a dit, je ne vous conseille pas, cher ami. Ça paraissait difficile d'accepter.
Mmh. Il s'agissait d'homosexualité.
Voilà, homosexualité. Voilà. Enfin.
Il a prétendu qu'en fait, c'était effectivement la liberté des associations d'idées qu'il réclamait, et que dans le surréalisme, il trouvait qu'il y avait beaucoup trop d'interdits.
Si par exemple vous dites « Oui, moi je rêve d'être pédéraste » et que vous ne l'êtes pas je vous oblige à être mon complice, ça n'est plus de la liberté. C'est donc c'est un peu dans ce sens que Dali considérait un peu les choses.
C'est en 1929 que le groupe avait vu à Cadaqués le tableau qui leur avait paru si provoquant, « Je lugubre ». Il se présente comme une explosion d'objets baroques, de figures féminines, de têtes d'oiseaux, de mains, de chapeaux, de galets, de tentacules jaillissant d'une architecture en perspective. À gauche, une statue pourvue d'une main énorme est juchée sur un socle qui porte l'inscription « Gramme, centigramme, milligramme ». Georges Bataille fera plus tard allusion à ce tableau comme à la genèse de l'émasculation et des réactions contradictoires qu'elle entraîne. Au premier plan, un homme au caleçon souillé tente d'y échapper par une attitude ignominieuse et écœurante, la souillure étant à la fois cause primitive et remède. Mais sur le moment, le marchand Camille Gemmens, Paul Éluard, René et Georgette Magritte furent choqués. Seule, la femme d'Éluard, Gala, fut plus intéressée qu'écœurée. Dali l'épousera bientôt. Extrait du journal d'un génie.
Il ne me fallut pas plus d'une semaine passée au sein du groupe surréaliste pour découvrir que Gala avait raison. On toléra dans une certaine mesure mes éléments scatologiques. En revanche, une quantité d'autres choses furent déclarées taboues. Je reconnaissais là les mêmes interdictions qu'au sein de ma famille. Le sang m'était permis. Je pourrais y ajouter un peu de caca, mais je n'avais pas droit au caca seul. On m'autorisait à représenter des sexes, mais pas de fantasmes anaux. Tout à nu, s'était regardé d'un très mauvais œil.
Ce qui nous intéressait surtout, c'est la liberté de s'exprimer, la liberté de penser, et c'est ce qui nous anime encore aujourd'hui.
C'est ça. Alors, à propos d'un de ses premiers tableaux, vous savez, où il y a l'homme en caleçon avec des traces d'excréments, tout le monde lui a posé des questions quand ce tableau était vu là-bas à Cadaqués. Et en particulier, vous savez que Gala lui a posé la question, êtes-vous coprophage ou pas ? C'était la grande question. Et alors, à ce moment-là, lui s'en étonne en disant, mais enfin, ces surréalistes qui se prétendent libres, revenus de tout, voilà qu'ils font des interdits, alors que moi, en réalité, si j'ai une fixation sur l'excrément, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de peindre ?
C'est vrai, oui, il a tous les droits. D'ailleurs, on ne l'a jamais empêché de peindre, de s'exprimer. On lui a posé des questions, parce que c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut éclairer certaines choses dans la vie. On peut très bien se poser des problèmes et des questions, mais on n'a jamais interdit à qui que ce soit de faire quoi que ce soit, surtout dans l'art et dans nos moyens d'expression, comme la poésie, la peinture.
Il n'y avait pas d'interdit, comme il le prétend.
Il n'y avait aucun interdit. Il a continué, d'ailleurs, à peindre des choses que le surréalisme n'a pas tellement admis en général, mais... Et ça a toujours été. C'est pas parce que on n'a pas continué à vivre dans sa société, c'est-à-dire qu'il n'a pas été accepté plus longtemps parmi nous, que cela l'a empêché de continuer à aimer Franco, le pape, ou ainsi de suite. N'est-ce pas ?
De son côté, lorsqu'il faisait encore partie du groupe, Dali avait reproché à ses amis de faire trop de politique et de pencher en particulier vers le communisme.
Oui, mais accepter certaines formes politiques d'un pays comme l'Espagne n'est pas un acte politique de sa part. Je pense que c'est même pire. Dali a continué à soutenir plus ou moins Franco dans ses mouvements, ce qui était peu supportable, n'est-ce pas ? Ce qu'il a dit à la fin, à la mort de Franco, après la mort de Franco, c'était un peu... très peu supportable, n'est-ce pas ? C'est tout de même... à partir de là, on ne peut plus voir très bien quel est cet homme qui aurait dû avoir un comportement beaucoup plus rigoureux quand il s'agit de la vie des êtres et du peuple espagnol.
Je me mêle pas de politique parce que je suis, comme vous savez, apolitique par excellence. La politique ne m'intéresse pas parce que c'est l'anecdote de l'histoire et moi je suis passionné de l'histoire, pas de ces anecdotes. Donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a personne qui se préoccupe des opinions politiques qu'il avait eu, par exemple, celui qui avait fait la Vénus de Milo.
Oui, mais on ne s'occupe pas. C'est évident. C'est évident que tant que vous ne faites pas de politique, vous n'êtes pas politique, mais dès que vous soutenez, dès que vous donnez votre... Un homme comme Dali est en Espagne comme dans le monde entier, c'est un homme très connu, qui a des gestes publics, qui a une action publique. On aime de voir quelquefois Dali dans ses œuvres, n'est-ce pas ? Alors, tout de même, c'est bien gênant quand il cautionne certaines personnalités politiques, parce que Franco n'est pas autre chose qu'un homme politique qui a fait une guerre civile, qui a créé une situation difficile et qu'on ne peut pas cautionné comme cela, n'est-ce pas ? C'est là le problème.
Ah, c'est pour ça que je suis la tradition, et alors à cette monarchie, on peut ajouter toutes les choses nouvelles qui se produisent à notre époque.
C'est ça.
Dans une monarchie actuelle, c'est certain qu'il ne va pas disparaître l'informatique, ni la morphologie, ni les catastrophes de Renéton, tout ça, ça va être incorporé à la tradition monarchique.
C'est ça. Il y a pas d'autre. Toutefois, bien que ne vous préoccupant pas de politique, vous aviez assuré à une époque que l'Europe, le monde, redeviendrait monarchique un jour ou l'autre, comme la peinture deviendrait hyper-réaliste.
Exactement.
Voilà. Et vous pensez encore que c'est possible, ça ?
Ah, mais naturellement, ça, je crois que En Espagne, déjà, il y a une monarchie. Et je crois qu'en Europe, il va y avoir une monarchie en Roumanie. Et en Chine, enfin, on retournera à la tradition fatalement. Ça, c'est fatal.
Mais on aurait tort de croire que dans ses relations avec un représentant du pouvoir royal, Salvador Dali fasse preuve obligatoirement d'humilité.
Oui, il faut dire que de temps en temps, il a du panache, je ne le nie pas. On raconte qu'un jour, l'ex-roi Humbert d'Italie est arrivé avec son yacht devant la propriété de Dali. Et a fait dire à Dali qu'il voudrait lui rendre visite. Alors Dali s'est précipité, est descendu au débarcadère, et a reçu le roi Humbert, l'ex-roi Humbert et sa suite, et lui a dit « Majesté, je suis très ennuyé, parce que figurez-vous que j'ai perdu la clé de mon portail. » Et il a fait mettre des planches pour obliger le roi Humbert et sa suite à grimper par-dessus le mur, n'est-ce pas ? Et le roi Humbert l'a fait, qui est évidemment un truc, mais n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'il ne peut rien faire simplement. Il a voulu, là encore, épater le roi Humbert. On n'entre pas chez Dali comme ça. N'est-ce pas ? Il s'est dit, comment, celui-là, il n'a qu'à siffler, puis je vais le recevoir. Non, non, je vais lui rendre ça très difficile.
Mais c'était initiatique, peut-être.
C'est une espèce de continuel bluff. Moi, je trouve ça très drôle, n'est-ce pas ? Vous comprenez ? Ça lui fera les pieds au roi Humbert, n'est-ce pas ? C'est vrai, il y avait du côté de ce ex-monarque, n'est-ce pas, une espèce de morgue, de dire, voilà, moi, je rends visite à Dali, comme le roi d'Espagne rendait visite à Titien. On envoyait un valet de chambre, disait, le roi va venir, n'est-ce pas, préparez-vous. Alors Dali lui a rendu la main de sa pièce, puis il l'a obligé à grimper par-dessus le mur. Il y a aussi tout Dali là-dedans. Il est supérieur même au roi. Il est le super monarque.
Clé pour un théâtre-musée, L'œil du temps, Salvador Dali, par Daniel Lecomte et Jacqueline Archambault.
C'était le 4e des 10 épisodes de la série Clé pour un théâtre-musée, première diffusion le 9 novembre 1978 dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture. À suivre.